Radio Grand Ciel présente Be Jazz, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Claude Casal. Au micro, Christiane Blanc. Cette année, nous poursuivons notre flânerie musicale à travers les courants et les évolutions du jazz. Vous retrouverez Patrick Durand, un médecin qui pratique le jazz, et Gilles Secaz, un journaliste passionné de guitare. Tous deux jouent dans différentes formations de jazz. Vous pourrez les retrouver, entre autres, à Réveillon dans l'Orne. Gilles Secaz, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Bonjour Patrick Durand.
Christiane Blain, bonjour.
Alors c'est la fin de l'année, nous allons évoquer les années 40, la fin des années 40, et comme c'est notre dernière émission de cette année, je vous invite non seulement à écouter cette émission, mais encore à revenir l'année prochaine pour un programme que vous adorerez. Alors aujourd'hui, ce sont donc les années 40 et Gilles Secaz, vous avez choisi de commencer par quel ensemble ?
Nous avons choisi de commencer par le cinéma. En 1945, Otto Preminger signe un film qui s'appelle « Laura » avec Jean Tierney et puis Dana Andrews. Et le compositeur David Raksin signe la partition de ce film. C'est une petite merveille, Laura. Je sais que Patrick l'aime beaucoup. Là, on va l'écouter dans une version de Woody Herman et son orchestre. Et d'ailleurs, Woody Herman qui chante lui-même. Il faut savoir que Laura a fait l'objet de plus de 400 enregistrements à ce jour. Et 400 enregistrements tous différents. Alors, pourquoi cet engouement pour cette musique? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Qu'est-ce qui envoûte les musiciens?
C'est bien la question qu'on se posait ensemble tout à l'heure, Gilles, puisque c'est un morceau, personnellement, je l'aime beaucoup. Je sais que toi aussi, tu le joues avec beaucoup de facilité. C'est un morceau qui, harmoniquement, est assez classique, un classique moderne par rapport, bien sûr, au Nouvelle-Orléans, à ses anciennes musiques. Mais il est assez classique, mais il a quelque chose de répétitif qui crée une espèce d'envoûtement. Donc effectivement, c'est une musique qui convenait très bien à ce film où le mystère, la recherche d'un cadavre ou d'un mort est l'objet de tout le film. Et peut-être là aussi, cette musique entraîne un petit peu quelque chose de mystérieux.
Nostalgique.
Nostalgique. Une cellule musicale qui se répète sans arrêt sur des hauteurs différentes. Bon, donc moi je l'aime bien et je ne suis pas capable de dire exactement pourquoi, mais je vois que je ne suis pas le seul.
Oh, et puis Laura n'est pas une composition à proprement parler de jazz.
Oui.
Mais elle a manifestement permis à beaucoup, beaucoup, beaucoup de jazzmen de se l'approprier, de se l'interpréter.
On peut crooner là-dessus, mais c'est pas du bebop.
Non, on va écouter d'ailleurs Woody Herman crooner sur Laura. Écoutons.
That you hear down the hall. laugh that floats on a summer night that you can never quite recall. And you see Laura on the train that is passing through. Those eyes, how familiar they seem. She gave your very first kiss to you. That was Laura, but she's only a dream. That was Laura, but she's only a dream.
Nous écoutions Woody Herman et son orchestre nous interpréter Laura de David Raksin. Nous étions en 1945. En 1946, pour la comédie musicale Showboat, en 1946, puisqu'il y a eu une version au cours des années 20, après Joe Pass en 1961, nous avons un enregistrement du guitariste Peter Bernstein de ce morceau qui s'appelle Nobody Else But Me, de Jerome Kern et Oscar Hammerstein. Et Peter Bernstein reprend là les accents du guitariste Joe Pass. Alors, ça date de 1995. Mais je trouve que ce morceau est assez emblématique de cette évolution du jazz à l'époque. Encore une fois, 1946, pour une comédie musicale. Écoutons. Thank you. collaboration donc en 1946, plutôt en 1995 avec Peter Bernstein, pour une composition de 1946 pour la comédie musicale Showboat. On est dans une musique qui évolue petit à petit. On arrive en 1947, et là c'est Charlie Parker, l'un des inventeurs du bebop, qui nous interprète Scrapple from the Apple. La section A du morceau est sur les harmonies de Honeysuckle Rose, qui était un standard des années 20, et la section B autour des harmonies de I Got Rhythm de George Gershwin. Et autour de Charlie Parker, on va trouver Miles Davis, Duke Jordan, Tommy Potter et Max Roach.
Bien voilà, une extraordinaire version de Scrapple from the Apple, la version de base que tout le monde doit avoir au moins entendu une fois, si ce n'est 10 fois dans sa vie, avec un célèbre solo de Parker. Et bien sûr, cela fait penser aux reprises qui ont été faites, notamment les double 6, qui ont chanté cette version-là d'une façon extraordinaire, rendant un grand coup de chapeau de chapeau et d'hommage à la famille Legrand, le frère qui est toujours parmi nous, et puis la sœur qui nous a quittés. Voilà, donc Charlie Parker, pour parler un petit peu du bebop, qui lui est on va dire le véritable initiateur du bebop, par une déconstruction un petit peu du rythme. On a des rythmes qui ne sont plus chaloupés comme dans une mer à peine tranquille, mais qui sont vraiment avec des à-coups. C'est la caractéristique de Charlie Parker, et puis une invention mélodique sur le plan de l'interprétation qui est assez extraordinaire. Gilles, je crois que tu aimes aussi beaucoup cette version.
Moi j'adore cette version de Charlie Parker. une version qui est jouée par la plupart des musiciens de jazz à travers le monde, évidemment. Ce qui est très amusant, c'est l'art de Charlie Parker, comme de Dizzy Gillespie, ce qui n'était pas le cas de Monk d'ailleurs, de récupérer des harmonies de standards.
Ça s'est fait beaucoup.
Ça s'est fait beaucoup. Mais c'était pour des histoires de droits d'auteur, finalement,
oui.
Et uniquement, et d'en faire ce qu'on vient d'entendre. C'est pas tout à fait le cas l'année suivante, en 1948, avec le morceau que nous allons écouter, qui est « Four Brothers », et qui est un morceau signé par Jimmy Giuffre, le clarinettiste, et enregistré par le grand orchestre de Woody Herman, qui était connu sous le nom des Four Brothers Band, et qui met en scène quatre saxophonistes, quatre saxos, les quatre frères, qui se partagent les chorus jusqu'au final, très hard swing. On a les trois ténors, Stan Getz, Zoot Sims et Herbie Stewart, et un baryton, Cher Shaloff. On écoute Woody Herman, Four Brothers.
Alors nous avons écouté, Gilles, effectivement, quatre saxes qui jouaient ensemble, ce qui est un petit peu inhabituel, et encore plus inhabituel, c'est d'avoir une disparité sonore de saxes, puisqu'on a un baryton qui est quand même qui a un son beaucoup moins percutant que que les ténors. Qu'est-ce que tu en penses, Julien ?
Ah oui, tout à fait. Bon, Serge Chaloff était un saxophoniste baryton qui n'a malheureusement pas marqué l'histoire du saxophone baryton comme l'aurait marqué un Jerry Mulligan, par exemple. Et Jerry Mulligan qui lui composait et travaillait beaucoup avec les autres saxophonistes. D'ailleurs, avec Jerry Mulligan, on retrouve Zoot Sims à ses débuts. Zoot Sims qu'on vient d'entendre là avec Stan Getz. De ces trois saxophonistes ténors, moi, ce que je retiens, c'est qu'il y en a deux qui ont fait une carrière remarquable, Stan Getz et Zoot Sims, et que Herbie Stewart, derrière, a, je dirais pas disparu, mais... a une carrière beaucoup moins vedette que les deux autres.
Ouais, mais c'est vrai que tout le monde ne peut pas ressortir, surtout dans ces domaines où on a quand on a un sax qui sort chaque 4 ou 5 ans, c'est bien le bout du monde. Et
ce que je retiens aussi moi de ce morceau, c'est l'utilisation des trois saxoténors et du baryton. C'est que Zoot Sims, qui donc faisait partie des trois ténors, a repris sur un de ses albums l'idée d'avoir trois ou quatre ténors qui jouaient ensemble. Il me semble que cet album s'appelait Four Sax, et c'était Zoot Sims qui interprétait lui-même les quatre parties. Donc en re-recording.
Oui, alors c'était la mode du re-recording.
La mode du re-recording. Et ça donne quelque chose qui est très très intéressant.
Ça signifie quoi, cette mode ?
Je ne sais pas si elle a une signification particulière.
C'était la technique, disons, d'enregistrer. Les magnétophones devenaient accessibles à tout le monde et au grand public. Donc on enregistrait quelque chose. Oui. Et sur ce qu'on avait enregistré, on pouvait enregistrer une deuxième chose avec une bonne qualité, en s'écoutant en même temps. On pouvait s'enregistrer une troisième fois. C'est-à-dire sur la même bande magnétique, on pouvait, en l'écoutant, s'enregistrer plusieurs fois. C'est ce qu'on appelle le re-recording. C'est-à-dire l'enregistrement à nouveau répété. Enregistrement répété.
C'est Henri Salvador qui avait utilisé ce re-recording pour avec Boris Vian lorsqu'il s'amusait à se faire appeler Henri Cording.
Oh, ça
c'est une autre histoire. Mais bon, pour revenir à Zoot Sims, son album est très intéressant et rappelle très largement ce qu'il avait fait avec les trois autres et l'orchestre de Woody Herman. Woody Herman, qu'on va retrouver dans le morceau suivant, on est en 1949, une composition de Ralph Burns et de Woody Herman, qui s'appelle Early Autumn. On retrouve une nouvelle fois Stan Getz au ténor, et Woody Herman, non pas à la clarinette, mais à l'alto, et Terry Gibbs, au vibraphone, Early Autumn, 1949.
Encore un morceau que les double six ont magistralement repris et interprété.
Absolument. Et les double six nous ont laissé de très très belles plages de musique, des reprises de ces morceaux, de ces standards qu'on vient d'écouter. On pourra faire une nouvelle série avec les double six, peut-être.
Voilà. Oui.
Pourquoi pas? Early Autumn, 1949.
Thank you.
Chers amis auditeurs, notre flânerie musicale à travers les mouvements et les évolutions du jazz se termine. Nous espérons vous retrouver l'année prochaine pour d'autres émissions de jazz. Vous pourrez également nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci Patrick Durand.
Merci Christiane Blain.
Merci Gilles Secaz.
Merci Christiane Blain.
Et à l'année prochaine pour de nouvelles émissions.